Nous lisons dans Luc 19, Luc 19, à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Nous lisons aussi Jean chapitre 23. Jean chapitre 21, pardon. Pardon, Luc 23, juste après. Luc 23. Donc Jésus est sur la croix et il y a des gens qui crient, qui se moquent de Jésus. Et nous voyons deux hommes qui parlent à Jésus, qui sont crucifiés avec lui. Donc nous lisons à partir du verset 36 ou verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurier, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Voilà la parole du Seigneur. Nous avons vu la première histoire, c'est l'histoire de Zachée. Zachée était un homme riche et il entend parler de Jésus. Il s'approche pour voir qui était Jésus. Mais il y a un obstacle, il y a la foule qui est là. Et lui-même est de petite taille, donc il ne peut pas voir Jésus passer. Il monte sur un arbre. Et Jésus, en passant par là, Jésus le voit et lui dit, « Aujourd'hui, je veux entrer dans ta maison. » Et lorsque Jésus arrive chez Zachée, Zachée lui-même est touché, il décide de restituer tout ce qu'il avait pris. Et Jésus dit une phrase, il dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Aujourd'hui, nous allons parler du salut, mais le thème c'est « Le salut est personnel ». Alors nous allons définir d'abord c'est quoi le salut. Il est écrit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. quiconque, donc celui qui accepte Jésus, il est sauvé, il a la vie éternelle. Et cette vie-là, c'est quoi? C'est l'éternité. Nous avons vu dans Luc, que nous avons lu, Jésus dit à cet homme, ce malfaiteur qui est avec lui sur la croix, il lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au ciel. Donc, ta vie ne s'arrête pas. Les humains ont décidé d'arrêter ta vie aujourd'hui, puisque tu as fait du mal, tu es rétribué selon le mal que tu as fait. Mais je t'informe qu'aujourd'hui, la vie ne s'arrête pas là. Et sachez, Jésus lui dit, le salut est entré dans cette maison. Donc le premier aspect du salut, c'est la vie éternelle. Donc nous avons l'espérance de vivre avec notre Dieu éternellement. Quand bien même les choses pourraient être difficiles, dures sur la terre, nous savons que notre maître, comme il a dit lui-même, est allé nous préparer une place. Et que même si la vie sur la terre passait, nous avons l'espérance de nous réjouir avec lui éternellement. Une vie qui n'a pas de fin, une vie qui n'a pas, où il n'y a pas de souffrance. Et l'autre aspect, c'est une vie sur la terre qui est transformée. Voilà un homme qui était méchant, qui était sûrement escroc, mais qui décide de changer de vie. C'est ça le salut. Le deuxième aspect, c'est une vie remplie de l'esprit. Et quand on a l'esprit de Dieu, on peut marcher et faire le bien lorsqu'on nous fait du mal. On rend ce mal par le bien. Lorsque quelqu'un a une dent contre nous, ou lorsqu'on a un problème avec la personne, eh bien, l'Esprit de Dieu nous pousse à arranger la chose, à demander pardon s'il le faut, à rechercher la paix, à rechercher la joie, à ne pas rendre le mal par le mal, à s'attendre à Dieu aussi. Une vie de foi, parce qu'en restituant ce que Zachée avait, eh bien, il entrait dans une vie de foi, puisqu'il avait sûrement mis de côté pour s'assurer des jours meilleurs. Et donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, donc ce qui est lié à notre thème d'aujourd'hui, c'est le salut est personnel. Nous voyons encore deux points identiques. C'est lequel? C'est que Zachée était empêché de voir Jésus par la foule. Les gens étaient nombreux, ils étaient là. Chacun avait son objectif. Chacun avait ses soucis. Chacun avait ses préoccupations. Nous ne les connaissons pas. Mais Zachée voulait tellement voir Jésus qu'il a fait la démarche, il a réfléchi, il s'est dit mais comment je peux accéder à Jésus, ne serait-ce que le voir. Il est monté sur un arbre en prenant tous les risques, déjà que les autres qui sont autour de lui soient méchants avec lui, parce qu'il n'était pas toujours tendre, parce qu'il prenait l'impôt de ces gens. Mais malgré cela, Zachée a fait cette démarche lui-même, et Jésus passant par là, Jésus lui dit aujourd'hui, je veux manger chez toi. Et le deuxième texte, nous avons lu, la foule était là, elle se moquait de Jésus. Les militaires, les soldats qui étaient là, ils disaient, mais si, il est le Fils de Dieu, mais qu'il se sauve lui-même. C'était même écrit que celui-ci est le roi des Juifs. Ils se moquaient de cela. Et l'autre malfaiteur qui est avec Jésus se moque aussi de lui, en disant, mais sauve-toi et sauve-nous. Comment tu peux nous laisser comme ça? Mais l'autre qui est à côté lui dit, mais ne crains-tu pas Dieu? Regarde déjà la situation dans laquelle tu te trouves. À cause des choses mauvaises que nous avons faites, nous sommes sanctionnés, nous sommes punis. Et c'est la mort qui nous attend. Mais malgré cela, tu continues à te moquer de Dieu. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Lorsque cet homme a dit cette phrase, peut-être que ceux qui étaient autour se sont moqués de lui. Mais cet homme a fait abstraction de ce que les gens pouvaient dire. Comment un homme qui est crucifié avec toi, tu lui demandes de te sauver? C'est la folie. Mais la question du salut est tellement importante, tellement grande, que c'est une décision personnelle. Ce n'est pas le voisin qui va prendre cette décision pour toi. Cet homme a sûrement fait du mal. Il a sûrement fait peut-être des 400 coups avec son ami. Mais il est arrivé à un moment où il s'est dit non. Toi, tu prends ta position. Moi, je prends ma position. Parce que là, ce n'est pas toi qui vas décider pour moi. Il y a des choses dans la vie où, pour prendre des décisions, on demande conseil. Lorsqu'on veut s'engager dans une voie dans les études, lorsqu'on veut s'engager dans une voie dans une recherche de travail, Lorsqu'on veut s'engager dans une voie, dans le mariage, on demande des conseils, on écoute l'avis des autres, on pèse, on mesure, on se dit, bon, est-ce que je peux suivre celui-là ou celui-ci? Mais en matière de salut, je t'ai dit aujourd'hui que le seul conseil dont tu as besoin, c'est de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que Dieu veut sauver tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est cela. Le salut est personnel. Le salut n'est pas une affaire de ton père, de ta mère. Le salut n'est pas une affaire de ton oncle. C'est personnel. Zachée a pris la décision seul, malgré la foule qui l'entourait. Le brigand a pris la décision seul. Il y aurait peut-être des conséquences liées à cette décision, mais il est resté ferme. Nous nous souvenons de l'histoire de Job que j'aime beaucoup, une histoire très difficile. Au chapitre 2, il est écrit, Job a tout perdu. Au chapitre 1er, ses enfants, son bétail, il a tout perdu. Au chapitre 2, il est écrit, peau pour peau, le diable dit encore à Dieu, il dit, maintenant tu as pris ses biens, mais tu n'as pas attaqué sa santé. Attaque maintenant sa santé et tu verras que les choses vont changer. Et là, Job a commencé à souffrir dans sa chair. Et sa femme vient et lui dit, mais regarde la situation dans laquelle tu es. Tu as tout perdu et tu gardes encore Dieu. Maudis-le et meurs. Job dit, tu parles comme un insensé. Là, il ne s'agissait plus d'écouter les conseils de sa femme. Il s'agissait d'une relation personnelle avec Dieu. Il s'est dit, non, comment tu peux parler comme ça? Si toi tu parles comme ça, c'est ton problème. Mais moi, je ne peux pas brader ma relation avec Dieu. Je ne peux pas mettre de côté tout ce que j'ai vécu avec Dieu. Le salut est personnel. Et nous allons voir des points qui vont nous encourager ou des conseils qui vont nous aider à vivre ce salut comme étant personnel pour nous-mêmes. Nous commençons par le premier point. Nous lisons Jean 21. Jean 21. À partir du verset 18. Donc c'est le Seigneur qui parle. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Nous avons dit, le salut est personnel. Et nous lisons, Jésus parle à Pierre. Il lui dit, « Autrefois, tu faisais les choses comme tu voulais. Mais maintenant, les choses vont changer. Ce ne sera plus toi qui décidera, c'est Dieu qui décidera pour toi. » Alors, Pierre est déstabilisé. Alors, il regarde son frère qui est à côté de lui. Il demande au Seigneur, mais maître, qu'est-ce qui arrivera à celui-ci? Moi, je connais mon sort, plus ou moins. Mais lui, Jésus lui dit, ce n'est pas ton problème. Que t'importe, toi, suis-moi. Le premier point, c'est ne pas se comparer aux autres. Le salut est personnel. Nous vivons dans un monde où on a mis, fixé des standards de vie pour voir ou qu'on puisse croire que tu es un bon chrétien. Il faut que tu aies une vie comme ça. Il faut que tu aies une famille comme ça. Il faut que tes enfants soient d'une certaine manière. Il y a un standard. Et lorsqu'on n'obtient pas cela, on est triste parce qu'on se compare aux autres. On regarde les autres. On regarde la vie des autres, on se dit « mais ce n'est pas possible ». Mais Seigneur, regarde l'autre, il est béni. Seigneur, regarde l'autre, ce qu'il a. Seigneur, regarde, moi je n'ai pas ceci alors que je prie. Jésus dit à Pierre, cela n'est pas ton problème. toi, suis-moi. Parce que ton histoire avec moi est personnelle, elle est différente de l'histoire de l'autre. Même si notre finalité à nous tous en tant que chrétiens, c'est le salut, c'est la vie éternelle. C'est d'être avec notre Seigneur, c'est cela. Mais sur la terre, nous n'aurons pas forcément le même parcours. Et lorsqu'on a du mal à comprendre cela, on risque de vivre une vie triste et vouloir faire comme les autres et sortir du plan de Dieu. Et généralement, lorsqu'on cherche à se comparer, ça nous irrite toujours, on est toujours irrité. Et Dieu va faire exprès pour qu'on puisse regarder à lui plutôt qu'à regarder ce qu'il fait autour. Nous lisons un exemple qui illustre cela dans Luc 10, 38 à 42. L'histoire de Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. » Voilà ce que dit la parole de Dieu. Marthe est dérangée du fait que sa sœur ne fait pas comme elle. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous vivons dans un monde où on veut tous être uniformes, uniformisés. On veut tous avoir les mêmes standards, les mêmes choses. Ainsi, quand on nous regarde, on se dit « Ah, lui, il est béni ». Mais quand il y a problème sur problème, le raisonnement humain, qu'est-ce qu'il nous dit? Comme les amis de Job, « Tu as péché, il y a forcément un problème dans ta vie ». Et Marthe se compare à Marie et se dit « Mais maître, mais cela ne te fait rien. Tu laisses ma sœur alors que moi je travaille. Regarde, ma sœur ne fait pas comme moi. » Marthe, en réalité, voulait que Marie fasse comme elle. Mais ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Jésus lui dit « Marthe, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'agites? Regarde la part que Marie a choisie. C'est la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. D'écouter la parole, de recevoir la vie, de recevoir le salut. C'est cela. Cette part-là, personne ne pourra lui ôter ça. Parce que c'est Dieu lui-même qui lui donne. Et comme nous avons dit tout à l'heure, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils pour qu'on ait le salut. Le salut, c'est un cadeau que Dieu nous fait et qui a de la valeur. Et il veut qu'on en prenne soin. Et Marthe est dérangée, elle regarde, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle regarde que sa sœur ne fait pas. Elle est triste. Elle veut que sa sœur fasse comme elle. Jésus lui dit non. Les choses ne se passent pas comme ça. Plutôt que de te comparer, toi cherche quelle est la volonté de Dieu pour toi. Mais néanmoins, Marie a choisi la bonne part. C'est d'écouter la parole. C'est d'être attentive. Le salut est personnel. Ne cherchons pas à regarder à l'autre. À copier sur l'autre. L'autre a ceci. Moi aussi, je veux avoir la même chose. Non. Non. Certains ont voulu copier, ils se sont mis dans des tourments, ils se sont mis dans des dettes, ils se sont mis dans des problèmes. Ne regardons pas ce qui frappe les yeux. Nous ne connaissons pas la réalité de chacun, nous ne connaissons pas. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu nous aime. Et qu'en Jésus, nous avons la vie. C'est ça, cela nous suffit. Lorsque nous voyons la vie des apôtres, ils n'ont pas tous eu la même vie. Jésus dit à Pierre, ta mort va glorifier Dieu. Et Pierre est dérangé. Il dit, mais l'autre, est-ce qu'il aura la même chose que moi? Jésus lui dit, non, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Ta vie est personnelle. C'est toi-même avec Dieu. Comme Zachée lui-même avec Dieu. Comme le brigand. Peu importe ce que les gens auraient dit. Eh ben lui, il a choisi à la croix de dire, Jésus, sauve-moi. Voilà. Ce n'est pas une affaire de famille, comme nous avons dit. Ce n'est pas une affaire de mon oncle, de mon père qui est pasteur, de ma mère qui est ceci. Non, c'est une affaire personnelle. Ne cherchons pas à nous comparer, à regarder qu'est-ce que l'autre a. Qu'est-ce que moi aussi je peux faire? Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on demande conseil. Je ne dis pas qu'on ne doit pas imiter. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mais ça, c'est quand c'est lié à la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là lui-même pour nous montrer, pour nous dire, voilà, lui, tu peux imiter. Te comparer, pas dans le sens de vouloir dépasser, mais dans le sens de ressembler au Seigneur au travers de lui. Parce que nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons les hommes. Et Dieu a mis des hommes pour être aussi des modèles pour nous. Et avec l'Esprit de Dieu, on peut savoir qu'un tel est de Dieu. Alors, je peux imiter. Je peux marcher comme lui. C'est cela. En voulant se comparer, on s'abaisse soi-même. En voulant se comparer, le diable sera toujours là pour dire, regarde, l'autre est mieux que toi. En voulant se comparer, on peut penser même que moi je mérite, moi je suis pur, je suis correct. On se rappelle de l'histoire de Luc 18, du publicain et du pharisien. Le pharisien était là, il se tapait la poitrine, il se glorifiait, en disant, moi je ne fais pas de mal. Je donne l'aumône, j'aide les pauvres. Il était religieux. Et l'autre qui était à côté, le pauvre malheureux, il est écrit qu'il se tapait la poitrine. Il disait, Seigneur, aie pitié de moi qui suis un homme pécheur, qui suis un homme mauvais. Voilà les deux attitudes. L'autre qui prie, il dit, je ne suis même pas comme ce publicain, comme ce païen, je ne suis pas comme lui. Je suis meilleur que lui. Et l'autre qui dit, Seigneur, aie pitié de moi. Et Jésus dit, qui a été justifié des deux? C'est le publicain qui a été justifié. C'est ça. Lorsqu'on cherche à se comparer, parfois, on peut être déstabilisé de voir qu'une personne qui ne semble pas marcher dans la voie de Dieu, ne semble pas être obéissant à la parole de Dieu, mais il progresse. Ça peut nous déstabiliser. Ça peut créer la colère. On se dit, mais moi, je mérite plus. Comme ce pharisien. Mais Jésus dit, non. Le salut, c'est un cadeau de Dieu. Et il faut être humble. Il faut être petit pour l'accepter, pour le recevoir. C'est cela. Ne cherchons pas à regarder à l'autre. En regardant à l'autre, on aura toutes les raisons d'être triste, de s'énerver, de dire, moi, je suis plus qu'un tel. Non. Quand on pense comme ça, on nous a atteints par l'orgueil. Et voilà qu'on sort de la voie de Dieu. Le salut est personnel. Gardons cela dans notre cœur. Nous voyons un deuxième point. Un roi au chapitre 13. 1 Roi 13. 1 Roi 13. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums que l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança sa main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Roboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit. Et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau de ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu serais allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Sellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sur un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni rentrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, « Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. » Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, « Moi aussi, je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain, et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu sur le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Notre deuxième point, c'est, nous avons dit, le salut est personnel. Notre premier point, c'est ne cherchons pas à faire comme les autres. Ne cherchons pas à vivre les mêmes expériences que les autres. Ne cherchons pas à imiter les autres. Et notre deuxième point, c'est ne cherchons pas à copier ou à, comment je peux dire ça, à vivre les mêmes expériences que les autres. Aujourd'hui, je parlais avec un frère qui achète beaucoup de livres de pseudo-serviteurs de Dieu, alors que les éléments visibles montrent que la personne n'est pas de Dieu. Même les choses que cette personne dit montrent que ce n'est pas de Dieu. Mais puisque cette personne fait des choses qui impressionnent les yeux de l'homme, alors cette personne achète des livres. Et sur Internet, elle est tellement émerveillée par ce serviteur. Par les théories, par les enseignements. Et en suivant cette personne, on veut prendre les expériences, les choses qu'il vit avec Dieu pour nous l'appliquer aussi à notre vie. Ce jeune prophète, Dieu a parlé clairement. Il lui a dit, tu fais la mission, tu changes de route et tu rentres chez toi. Il a fait la mission. On lui a fait une première proposition. Il a refusé. Il a été fidèle. Mais voilà qu'un homme lui dit, mais moi aussi je suis prophète comme toi. En plus, c'est écrit un vieux prophète. Donc moi, j'ai de l'expérience. Moi, j'ai commencé à travailler avant toi. Et voilà que cette personne écoute le conseil. Et il est bien écrit que cet homme lui mentait. Et il a été tué par un lion qu'il n'a même pas mangé. Qu'il ne l'a même pas mangé. Pourquoi ? Parce que cet homme a été impressionné par le palmarès de ce serviteur qui était faux. Alors que Dieu lui a parlé. Alors la question ici, c'est, est-ce qu'on va suivre une personne puisqu'elle a fait des exploits ou est-ce qu'on suit ce que Dieu nous a dit? C'est ça la question que je nous pose. Est-ce qu'on va suivre parce que le pasteur ou le frère qui a déjà fait des miracles, qui remplit des salles, m'a dit ou est-ce que je suis ce que la parole de Dieu m'a dit? Dieu lui a parlé clairement. Mais l'homme étant toujours insatisfait, il cherche toujours autre chose. Ce qui sort de l'ordinaire, ce qui sort du quotidien. Et voilà qu'il a suivi un mensonge et il s'est fait tuer. Et en faisant le parallèle avec nous, c'est que nous, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Il est écrit dans Deutéronome, Dieu parle à Israël, il dit, j'enverrai même des faux qui vont vous dire des choses qui vont arriver, ensuite qui vont vous dire des choses qui sont fausses. Mais le but, c'est pour voir est-ce que vous vous attachez à ma parole ou est-ce que vous vous attachez aux expériences des personnes. Voilà que Dieu a parlé à cette personne personnellement, mais il a préféré suivre un exemple en se disant, bon, peut-être que Dieu m'a parlé à moi, mais entre-temps, comme lui, il est vieux prophète, Dieu lui a parlé aussi entre-temps. Donc ce que lui dit est vrai. Et voilà qui s'est fait avoir. Nous avons la parole, cela nous suffit. L'apôtre Paul dit à Timothée, 1 Timothée 4, à partir du verset 6 jusqu'à 12, il dit, ne te méprise pas, ce que tu prêches, ce que tu enseignes, pratique-le aussi pour toi. Les gens te diront, tu es petit, mais qu'est-ce que tu vas apprendre? Tu es un enfant, mais qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Nous, nous avons de l'expérience. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis catholique depuis tant d'années. Dans la famille, ça se passe comme ça. Moi. Alors toi, qui es-tu pour me venir me dire des choses? On se dit, bon, la personne a vécu. La personne a de l'expérience. C'est vrai que la personne m'a toujours donné des bons conseils. Ah oui. Mais si ce n'est pas fondé sur la parole, même s'il donne 99 bons conseils, un jour, il y aura un seul mauvais conseil. Et ce conseil-là peut avoir des conséquences graves. Graves. Aujourd'hui, il y a des gens qui se trouvent dans des situations, parfois même possédés par des esprits mauvais, parce qu'ils ont voulu suivre une personne. Parce qu'ils ont voulu écouter des choses en se disant, lui, quand il parle, il a des révélations extraordinaires. Lui, quand il dit les choses, il se passe ceci, il se passe cela. Et en suivant cela, ben, parfois les gens étaient possédés comme ça. Parfois les gens étaient possédés. Alors le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? L'autre t'a donné des conseils, oui. Et la Bible elle-même dit qu'on ne doit pas accepter tout comme ça, il faut éprouver. Et on éprouve avec l'Esprit de Dieu, avec la Bible. Avec des conseils aussi des hommes dont on sait qu'ils sont corrects avec le Seigneur. En cherchant des exemples, des expériences. Des personnes, puisque lui il a fait comme ça, moi aussi je veux faire comme ça. On risque de sortir du plan de Dieu. Peut-être que lui, il a fait comme ça, il n'est pas de Dieu, mais Dieu s'est glorifié à cause de son nom, tout simplement. Ou ça peut être aussi quelque chose, une manifestation qui est fausse, qui n'est pas forcément de Dieu. Mais si nous aussi on suit cela, eh ben, on risque de mettre notre salut en danger. On risque de se créer des problèmes. On risque même de contredire la Bible. Faisons attention. Le salut est personnel. Dieu nous a donné sa parole. Il nous a donné Jésus-Christ. Et cela suffit. Dieu a parlé à cet homme clairement. Mais l'expérience, un vieux, un sage, un homme qui connaît, ce n'est pas parce qu'on est vieux que tout ce qu'on dit est vrai, tout ce qu'on dit est sage. Comme on le dit souvent. Je me rappelle l'exemple d'un serviteur de Dieu qui dit qu'il connaît une amie qui a un certain âge et l'ami lui dit, je me suis rendu compte que ce n'est pas parce qu'on va dans la vieillesse que tout ce qu'on dit est vrai, tout ce qu'on dit est sage. Le véritable sage, c'est l'ancien des jours, c'est l'éternel. Lui, il existe depuis les temps, c'est celui-là. Parfois, on se dit, bon, lui, c'est un ancien, je vais écouter. On écoute, on entend. Maintenant, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, on met de côté. Puisque là, il s'agit de notre salut. Il s'agit de notre vie. Il s'agit de notre éternité. Comprenons bien que le salut, c'est un cadeau de Dieu. Et Jésus dit, ceux qui sont dans ma main, personne ne peut me les ravir. Donc Dieu, quand il donne son salut, il garantit aussi de l'amener jusqu'au bout. Mais nous-mêmes, en regardant à gauche, à droite, on peut sortir de ce salut-là. Cet homme, s'il était resté fidèle à la parole de Dieu, il serait retourné chez lui. Sans problème. Mais il est sorti. Voilà qu'il n'est même pas arrivé là où il devait aller. Il a été trompé. Troisième point, nous lisons Matthieu au chapitre 10. Donc notre troisième point, c'est ne pas mettre les affinités avant Dieu. Nous lisons, donc nous allons expliquer Matthieu 10, 34 à 39. Donc c'est le Seigneur qui parle. « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ses ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Amen. Alors, lorsqu'on lit, et je bénis le Seigneur parce que c'est le sujet d'une méditation que nous avons eue, je crois, hier matin ou ce matin, je ne me rappelle plus. Mais lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, c'est vrai. Le Seigneur dit, à cause de la vérité, il y aura des frictions dans la famille. Et je pense que tous, autant que nous sommes, nous pouvons d'une certaine mesure, c'est là qu'on voit que la parole de Dieu est vraie et elle s'accomplit. Lorsqu'on s'est converti, ou lorsqu'on se convertit, eh bien, on n'a plus les mêmes rapports que nos membres de famille. Parce qu'autrefois, nos rapports étaient liés sur, tout simplement, parfois, de la moquerie. Moi, je sais qu'avec mes frères, on était beaucoup moqueurs. Il suffisait qu'on se regarde pour se donner des codes et on rigolait. Avec les amis, c'était la même chose. Mais maintenant qu'on se convertit, on sait que la moquerie n'est pas bonne. En tout cas, la moquerie pour vraiment blesser, pour faire mal. En tout cas, jeter dans cela. Et lorsqu'on se convertit, on ne partage plus les mêmes choses. Et il est arrivé parfois que les gens disent « Mais tu es devenu bizarre. Toi, on ne te comprend plus. Autrefois, tu étais plus gai, plus joyeux, plus vivant. » En fait, c'est ça leur définition de la vie. Or, ce n'est pas ça la vie. On fait une blague qui est mauvaise. Ça nous fait rire. Et toutes ces choses, ça crée une affinité, ça crée un rapprochement. On est proche, mais le jour où il n'y a plus cela, il y a une cassure. Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut haïr sa famille. Non. Mais Jésus dit qu'à cause de la vérité, il y aura une séparation. Mais cette séparation-là, c'est avec un but, afin que les gens qui nous entourent voient véritablement que la bonté existe, l'amour existe, la patience existe. La paix existe. Le pardon lorsqu'on te fait du mal, ça existe. Afin qu'en voyant cela, eh bien, qu'il se rapproche aussi de Dieu et qu'il soit sauvé. C'est cela. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu veut sauver tous les hommes. Donc ce passage ne nous dit pas d'haïr nos proches, non. Mais ce passage nous dit, lorsqu'on fait le choix du Seigneur, eh bien, il faut le faire jusqu'au bout. Parce qu'un jour, il y aura un conflit, comme Jésus dit, celui qui voudra conserver sa vie. Conserver sa vie, c'est quoi? C'est faire des compromis. On sait que rentrer dans un bâtiment catholique, ce n'est pas bon parce qu'il est écrit qu'on ne doit pas se mettre sous un joug étranger. Et là, tu regardes la famille, tu vois tous les vieux de la famille qui sont là. Tu dis, bon, là, Seigneur, je ferme les yeux, j'entre seulement, mais ce n'est pas bon. C'est ça garder sa vie. Donc on veut faire des compromis pour s'en sortir, pour ne pas avoir de problème. Parce qu'en prenant une décision comme ça, eh ben forcément, il y aura des conséquences. On dira, là, tu as exagéré. Voilà qu'il y a un décès. Cette personne-là, si elle avait su comment tu t'es comporté le jour où nous nous sommes réunis. Voilà, on va te faire culpabiliser comme ça. Mais puisqu'on aime la vérité, eh bien, le Seigneur nous dit, eh bien, acceptons cela. À cause de vouloir conserver sa vie, Jésus dit quoi ? On peut la perdre. On peut perdre son salut. À cause de vouloir faire comme tout le monde en se disant, bon, là, c'est pas grave, c'est le mensonge. Bon, ah, là, c'est le vieux là qui a parlé. Donc là, je peux pas me taire. Non. Quand c'est comme ça, on dit, papa ou vieux, là, moi, je ne participe pas. Parce que ce n'est pas bon. Il faut la sagesse aussi. Mais sous prétexte de sagesse, on se dit, bon, c'est pas grave. Ah, ça peut nous amener des problèmes. Le salut est personnel. Jésus dit, celui qui veut me suivre, il doit être prêt à prendre sa croix, l'instrument de son brisement, à ne pas chercher à conserver sa vie en faisant des compromis. En disant, bon, c'est la famille. Ce n'est pas parce que la famille que c'est toujours bon. Dans les familles, tout le monde ne connaît pas le Seigneur. Il y en a qui sont dans les sciences occultes. Il y en a qui sont dans la magie. Il y en a qui sont dans toutes ces choses. Et lorsque nous, on s'est réunis, lorsque nous, on participe à ces réunions, nous, on vient avec un objectif, c'est être un témoin du Seigneur. On ne vient pas avec l'objectif de se fondre dans la masse pour dire, bon, je mets ma chrétienté de côté pourvu que je garde la paix. Non. Jésus dit, voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu apporter l'épée. Et non la paix, ça peut choquer. Non pas une paix que tu vas créer en voulant être sage à toi, devant toi-même ou devant ceux qui te suivent. Non, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie. Le Seigneur veut qu'on soit vrai, comme il est écrit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Voilà, d'être vrai. Et il y aura des situations qui pourront vouloir mettre notre salut en danger. Je ne dis pas perdre notre salut, mais mettre notre salut en danger parce que, à force de vivre comme ça, comme un caméléon, un jour, on risque de prendre une décision qui risque d'être grave. Et si le Seigneur a dit ça, c'est parce qu'il sait. Lorsque les gens viennent voir Jésus, dans Matthieu 12, je crois 46, ils lui disent, Maître, ta mère, tes frères sont là, ils t'attendent, ils te cherchent. J'ai dû dire, regardez-vous là, ma mère et mes frères, ce sont eux là. Qui obéissent à ma parole. Jésus ne disait pas, il ne reniait pas sa famille. Mais il voulait nous faire comprendre que, étant une famille de Dieu maintenant, étant tous enfants de Dieu, voilà ce que nous sommes. C'est ça notre identité. Donc, notre identité d'enfant de Dieu passe même avant notre famille charnelle. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner la famille charnelle. Mais on est avant tout enfant de Dieu. Je ne suis plus seulement l'enfant de mon père, je suis l'enfant de Dieu. Maintenant, je sais que j'ai un père physique, j'ai une mère physique, à qui je dois du respect. Mais lorsque je dois choisir entre ce que dit mon père ou ma mère physique ou mon frère et Dieu, je choisis Dieu. C'est cela. Alors le troisième conseil, c'est ne laissons pas nos affinités, notre amitié, nous faire perdre notre salut. Ne laissons pas cela. On connaît le témoignage de beaucoup de personnes qui ont retrouvé des amis d'autrefois, qui ont retrouvé même une copine d'autrefois. Et là, on se retrouve, on se remémore des choses passées. Et parfois, ça peut nous mener même à des péchés. Puisqu'on n'a pas été attentif, puisqu'on a mis l'affinité, notre amitié, puisqu'on a mis notre relation avant Dieu. Et ça peut être grave. Alors le Seigneur nous dit, faisons attention. Même nos affinités, même nos relations, ne les faisons pas passer avant le Seigneur. Le Seigneur est avant cela. Lorsque nous voyons, nous avons vu une fois Abraham qui a choisi de faire sa route. Il s'est séparé de son frère Lot. Pourtant, il l'aimait. Mais il y a eu un moment où il s'agissait soit de l'affinité charnelle ou la relation avec Dieu. Abraham a choisi de partir avec Dieu, alors que là où il allait, visiblement, ce n'était pas beau. Mais il a choisi de faire sa route. Son souci était de rester dans le plan de Dieu. C'est cela. Et parfois, les affinités d'autrefois, parfois nos relations avec les personnes qu'on a connues autrefois, qui ne sont pas dans le Seigneur, peuvent nous mener à sortir de la voie de Dieu. Et l'apôtre Paul est catégorique lorsque nous lisons, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi dans 2 Timothée 4. Et après cela, il dit, Démas avec qui j'étais, j'ai marché, m'a abandonné. Il parle plus loin, il parle à Timothée, il dit, Alexandre aussi m'a fait tant de mal. Et on s'est séparés, pourvu que moi je reste dans le Seigneur. Pourtant, c'est des gens, des personnes avec qui Paul a travaillé. Et en travaillant ensemble, il y a eu une relation, il y a eu une affinité. Mais cela n'est pas passé avant la mission de Dieu. Cela n'est pas passé avant le plan de Dieu pour lui. Il a dit, ben c'est comme ça la vie. Un tel m'a quitté, un tel autre m'a fait du mal, un tel autre pour l'amour des choses de ce monde. Bon, c'est pas grave, il dit à Timothée, toi, fais attention, veille sur la parole. Fais attention. Et c'est cela la parole de Dieu. Le salut est personnel. Donc je résume en disant, premier point, ne cherchons pas à vivre la même expérience, à nous comparer à un tel. Puisque l'autre a fait ceci pour avoir cela, moi aussi je veux faire la même chose. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. En voulant faire comme l'autre, on risque de nous créer des problèmes. Le deuxième point, ne pas chercher à vivre l'expérience que l'autre a vécue. Comme le jeune prophète, on lui a dit, bon, je suis vieux. Et prophète en plus. Donc je connais plus que toi. Si Dieu te parle, moi je suis plus vieux que toi. Donc Dieu me parle aussi à moi. Et il s'est fait piéger comme ça. Et voilà qu'il est sorti de la volonté de Dieu. Et le troisième point, c'est de ne pas laisser nos affinités prendre le dessus sur Dieu. Parce que la chair, celui qui n'a pas Dieu, eh ben, il va toujours nous amener à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Un jour ou l'autre, on devra faire ce choix-là. Alors veillons sur notre salut. Le salut a tellement une grande valeur. Comme nous avons dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné le salut que nous avons, la vie éternelle, la vie d'avoir l'Esprit de Dieu pour vivre une vie sur la terre. C'est le plus grand cadeau que Dieu a fait aux humains. De voir un homme qui, lorsqu'il fait le mal, sait revenir pour demander pardon. C'est une vie extraordinaire et quand Dieu voit ça, il se réjouit de cela. Parfois, on rencontre des personnes qui ont reçu des héritages, des membres de famille. Alors cet héritage, parfois, ça ne peut être quelque chose qui est petit, mais la valeur sentimentale est très grande. La personne tient à cette chose parce qu'elle se dit, j'ai reçu cette chose d'un tel ou d'un tel. Alors nous, le salut, c'est l'héritage que Dieu nous donne. Comme j'ai dit, c'est la vie éternelle au ciel avec Dieu, mais sur la terre, c'est de vivre avec Dieu tous les jours. Alors, c'est quelque chose qui a de la valeur. On doit prendre aussi cela au sérieux. Ne pas chercher à faire comme les autres. Ne pas chercher à vivre l'expérience d'un tel. Ne pas chercher à laisser nos affinités nous sortir du salut. Restons fidèles au Seigneur. Attachés à la parole de Dieu. Puisque ce n'est pas une affaire d'un travail qu'on peut changer demain. Ce n'est pas une affaire d'une chemise qu'on peut changer demain. C'est l'histoire du salut. Amen. Que le Seigneur nous aide, que son esprit puisse continuer son œuvre dans mon cœur et dans le cœur de chacun de nous, au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, Seigneur, que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur, tu nous rappelles, Seigneur, combien l'œuvre du salut a été grande. Et aujourd'hui, Seigneur, nous avons ta vie. Aujourd'hui, nous pouvons marcher, Seigneur, étant vainqueurs du mal, du péché, par cette vie que tu nous as donnée, avec ton esprit, Seigneur. Mais en plus de cela, Seigneur, tu nous promets d'être avec toi, Seigneur, éternellement. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à conserver ce salut que tu nous as donné. Car tu nous l'as donné, Seigneur, à nous personnellement, Seigneur. à chacun individuellement, comme il est écrit, quiconque croit. Seigneur, nous voulons garder ce salut. Nous refusons, Seigneur, de faire comme un tel. Nous refusons de vouloir vivre des expériences, Seigneur, d'un tel ou d'un tel, parce que nous savons que tu as un plan que tu as formé pour chacun, Seigneur. Et ces plans ne sont pas les mêmes. Et en voulant copier sur un autre, on risque de sortir de ton plan. Tu nous as donné ta parole, Seigneur, pour nous maintenir, pour nous guider, pour nous conduire par ton esprit aussi, Seigneur. Et nous voulons nous contenter de cela. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides aussi à ne pas, Seigneur, plier, Seigneur, devant nos membres de famille, Seigneur. Parfois, nous pouvons recevoir des réflexions. Parfois, nous pouvons avoir l'impression de les avoir abandonnés, Seigneur, pour toi. Et cela peut nous pousser à faire des compromis. Mais tu dis, Seigneur, que celui qui voudra garder sa vie, faire des compromis pour chercher la paix charnelle avec les membres de sa famille, il risque de la perdre. Nous ne voulons pas perdre le salut que tu nous as donné, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à garder l'amour, la paix, la joie, à nous occuper aussi de nos membres de famille, tout en restant dans la vérité, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions aussi pour nos familles, nous prions pour que tu te révèles à eux, toi qui es le Dieu vivant, que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci pour le salut que nous avons en toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.